France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle George Benjamin. Je suis né à Londres le 31 janvier 60. Et je suis compositeur, chef d'orchestre, peut-être pianiste et professeur de composition.
Maintenant que vous regardez aussi, George Benjamin, derrière vous, vous dites que vous avez acquis des techniques. Mmh. Est-ce que vous diriez qu'il y a des choses qui préexistent ou bien ce qui arrive en premier dans la composition, c'est un son?
Le son est quand même extrêmement important. Pour nous, les musiciens, notre univers, c'est le son. Et il faut aimer le son. Et il faut tenir le son dans son corps pendant qu'on écrit. Pas seulement dans les oreilles, il faut le sentir, il faut le vivre. Le son de l'œuvre, qui n'est pas une chose facile parce qu'il y a le contrepoint, il y a la polyphonie, il y a la complexité dans la musique. Ce n'est pas une seule chose. C'est un son qui vient des mille, même des millions de détails. Mais je crois que maintenant, plus que le son, ce sont des conceptions formelles à travers le son qui sont la chose la plus importante. Et c'est difficile à décrire, mais bien sûr, la musique a une forme, et l'évolution de la forme, de plus en plus âgée que je deviens, me semble peut-être la chose la plus intéressante, la plus extraordinaire. Comment les plus petits détails se mettent ensemble dans une continuité musicale? Comment on fait une unité à travers tous les détails, tous les changements d'humeur, de tempo, de registre, de qualité sonore, d'émotion, et la connexion entre les choses? Mais il y a une chose qui m'avait beaucoup aidé ces derniers 15 ans, c'est quand même les livrets que Martin Crimp a écrits pour moi.
Oui.
Parce que les conceptions abstraites de la composition quand même restent capitales. Je ne fais pas une simple description des mots comme la musique de film dans les partitions de mes opéras, mais quand même la forme théâtre qu'il m'offre et les mots qu'il me donne, ça m'avait beaucoup aidé. Beaucoup aidé. En effet, ça m'avait ouvert, je crois, aussi.
George Benjamin, l'opéra, c'est une forme depuis votre enfance que vous allez chérir, c'est aussi ce goût du drame. Pour écrire un opéra, il faut un dramaturge, grâce à Joséphine Markowitz. C'est Martin Crimp qui va être l'homme de la situation. Mmh. Une rencontre capitale, car c'est avec Martin Crimp que vous allez écrire ces opéras qui sont aujourd'hui au nombre de 3. Il y en a un qui va être repris à l'Opéra de Lyon, le dernier, Lessons in Love and Violence. Mmh. Comment la rencontre s'est faite et pourquoi ça a été lui?
J'avais rencontré 60 personnes pendant les 25 années où je cherchais un écrivain pour écrire un opéra. Toujours raté, hélas, des metteurs en scène, des poètes, des directeurs de films. Tout a mal marché. Et finalement, je me suis dit vers 2002 ou 2003, j'adore l'opéra, mais je ne le ferai jamais. J'en ai assez de rencontrer des gens, c'est embarrassant, ça ne marche jamais, et puis ça sera impossible de travailler avec moi, je suis difficile, je suis secret, ça ne marchera pas. Mais à peu près 2003 ou 2004, il y avait un livre à mon égard, imprimé en France, des entretiens avec Éric Denu. Et at the book launch, comment on dit le...
Au cocktail.
Oui.
De la parution du
là,
livre.
Il y avait Joséphine Markovitz, la directrice, depuis très longtemps, du Festival d'Automne à Paris. Elle vient me voir et elle me dit, je suis fascinée de voir que vous parlez que de l'opéra pendant les dernières pages de ce petit livre. Moi, je veux faire un portrait de vous au Festival d'Automne dans 2-3 ans, mais il faut que vous écriviez un opéra pour ça. Alors j'ai dit tout de suite, non, c'est pas possible, je veux, mais je n'ai pas quelqu'un. Mais Joséphine Markovitz, c'est une femme qui est obstinée, dans la meilleure façon. Heureusement, les œuvres de Martin Krimp ont été jouées au Festival d'Automne, au théâtre, à cette époque, avec beaucoup de succès. Et aussi, il est édité chez Faber & Faber. Mes œuvres sont chez Faber Music. Ça nous approche un peu. Puis, j'enseigne la composition à King's College London. Et j'avais un collègue, professeur, qui s'appelle Lawrence Dreyfus, qui était ami avec Martin Krimp. Et pendant un déjeuner, il m'avait dit, « Oh, je connais quelqu'un de génial, il faut que je vous fasse rencontrer. » Alors, il nous a mis ensemble dans une façon très gentille, très généreuse, et j'avais rencontré Martin. Et aux premières rencontres, pour la première fois, j'avais senti, « Ah, là, il y a quelqu'un avec lequel je pouvais travailler. » Finalement, assez rapidement, après 9 mois, il y a Into the Little Hill, qui a été créé à l'amphithéâtre de l'Opéra Bastille en novembre 2006, avec l'ensemble moderne, dirigé par Franck Orlu et avec les deux chanteurs pour lesquels j'avais conçu l'œuvre, Anu Comsi et Hilary Summers. Alors, entre moi et Martin, n'était pas très facile au début. C'est toujours difficile de mettre les gens ensemble. Heureusement, Martin... Il est à la fois un artiste extraordinaire, génial, mais il est aussi très gentil et très patient. Et c'est grâce à cela qu'on est toujours là, on travaille toujours ensemble. Les premières semaines étaient un peu difficiles. Moi, j'avais du mal à concevoir comment je pouvais mettre ces mots en musique. Ça, c'est différent que ce que j'ai fait jusqu'auparavant. Son esthétique est différente de la mienne, qui est en effet intéressante, qui est une chose positive, mais je ne comprenais pas au début. Et puis, comment ça marche de collaborer avec quelqu'un d'autre? Moi, je suis tellement secret, je ne dis pas même à mon éditeur ce que j'écris, mais ma personne. Avec un écrivain, il faut qu'on partage le thème, la forme, tant de choses, qui est en effet très intéressant, très enrichissant, mais je ne savais pas. En tout cas, grâce aux patiences et la volonté de collaborer de Martin, ça a marché. Je dois ajouter qu'il y a aussi Daniel Jeannetot qui a fait la mise en scène, qui a été très originelle et très frappante, qui a joué un rôle pendant l'écriture de l'œuvre elle-même. L'œuvre était écrite en 6 mois, très très vite pour moi. 40 minutes de musique aussi rapide, très très vite. Et le thème de l'œuvre, The Pied Piper of Hamelin, le jouet de flûte de Hamelin. J'avais conçu une opéra pour jeunes pendant mon enfance, à l'âge de 14 ans, à l'école. Extrêmement mauvaise, jamais achevée, mais je l'avais fait. Et je crois que Martin a été intéressé par ce fait. Puis, on commence à répéter et j'ai tout de suite vu la joie de la collaboration théâtrale, qu'on n'a pas que 3 jours de répétition en orchestre, mais 6 semaines. Orchestre, chant et piano, théâtre, lumière, costume, chant et orchestre, tout ensemble. J'ai trouvé ça formidable. Et j'avais envie de faire plus après. Thank you. ça marchait. Et le lendemain, je reçois une lettre d'un ancien ami, déjà depuis 20 ans, c'est Bernard Faucroul, qui était en train de devenir le directeur du Festival d'Aix-en-Provence. Alors, il m'avait écrit, « Georges, ça fait 20 ans, qui était la vérité, que je vous demande d'écrire une opéra. Enfin, après ce Into Little Hill, c'est le moment. Est-ce que vous et Martine seront d'accord ?» Nous avons dit rapidement oui.
Écrire pour la voix, on a le sentiment, quand on n'est pas soi-même musicien, mais que c'est une difficulté toute particulière. Pour oui, la voix, c'est pas seulement la longueur, c'est aussi ce qu'il faut dire, c'est aussi...
Oui, c'est un très grand défi. À mon avis, si on écrit en très mauvaise mesure, après 80 minutes de musique, tout est raté. Il faut garder l'attention, il faut garder la logique, il faut garder la continuité, il faut garder l'unanimité de discours et de conception de l'œuvre. Mais en même temps, il faut que la musique réponde toujours à l'évolution du drame. Ça veut dire que ça ne peut pas se répéter facilement et qu'en effet, on trouve toujours des choses nouvelles à offrir aux oreilles des auditeurs. Car la drame doit évoluer, il faut que ce soit dynamique. Alors ce sont des grands défis, c'est très dur. Il fallait des 1000 pages d'esquisses, il fallait beaucoup de temps, mais quand même, une heure et demie de musique, j'avais achevé en 26 mois, qui est pour moi très rapide. Très rapide. Et c'est le cas aussi avec la prochaine opéra, Lessons. En effet, je suis confortable dans cette forme. J'ai l'impression que ça me convient pendant que malgré sa grande difficulté.
Est-ce que, George Benjamin, vous avez partager des moments avec les chanteurs, peut-être en amont même de l'écriture? Est-ce que l'écriture même de Rinton and Skin, comme du dernier opéra, est adaptée aux chanteurs?
Plus qu'adaptée, c'est inspirée par les chanteurs pour lesquels j'avais écrit. Pour Rinton and Skin et pour tous mes autres opéras, les chanteurs viennent chez moi, je les accompagne au piano, on fait des leaders, des extraits d'opéra, et je prends des notes précises. Que sont les notes préférées? Que sont les notes qui ne fonctionnent pas? Que sont les notes qui ne fonctionnent pas tard dans la soirée? Que sont les effets vocaux qui vous conviennent? Quel registre est mauvais pour vous? Ou qu'est-ce que c'est votre note préférée? Je prends 20 pages de notes par chanteur et mon écriture vocale est formée par le drame, par les mots de Martine, par le langage anglais, mais aussi par la réalité des voix pour lesquelles j'écris. Et puis, en parenthèse, quand l'œuvre est achevée, les chanteurs, espérant que c'est le cas, sont confortables avec l'écriture que j'avais faite pour eux. Et puis, ils savent que c'était pour eux. Alors, peut-être ils donnent encore plus en exécution, car c'est leur œuvre.
Les grands entretiens de George Benjamin, France Musique.
On sent dans votre écriture, George Benjamin, qu'il y a vraiment une orchestration qui est destinée à mettre en valeur la ligne vocale.
Dans l'orchestre?
Oui.
Oui, car un des problèmes que j'avais noté dans beaucoup d'opéras depuis 100 ans, qui est un type de rupture entre l'orchestre qui joue expressionniste très fort, même magnifique de temps en temps, et que la voix semble isolée. Il n'y a pas de connexion entre les deux. La raison pour cela, c'est à la fois acoustique, c'est structurel, de temps en temps c'est voulu aussi, et correct même. Mais en même temps c'est une question des lois et des règles, des conceptions harmoniques, linéaires harmoniques. C'est, en effet, c'était celle-ci, comme je l'ai déjà dit, c'était la chose pour laquelle j'ai donné le plus attention depuis 20 ans. Sans revenir aux harmonies du passé, mais comment intégrer la voix humaine dans le tissu de l'orchestre, qu'il ne se copie pas, que ce ne soit pas la même musique, mais que le chanteur peut savoir quelle note elle ou il doit chanter, et que l'auditeur entend la connexion, et qu'on entend que les lignes mélodiques des chants augmentent le tissu harmonique de l'œuvre. C'est assez difficile à expliquer, mais je crois que ça s'entend.
Lessons in Love and Violence, cette œuvre est reprise à l'Opéra de Lyon avec une nouvelle distribution.
Ce n'est pas totalement des différents chanteurs. À Lyon, le rôle de la reine Isabelle est pris par Georgia Jarman, qui remplace Barbara Hannigan. Mais les deux autres grands rôles dans l'œuvre, ça veut dire le roi Édouard II et son amant Gaveston, sont repris comme à la création par de formidables chanteurs, barytons, Stéphane Degout et Yula Orent. Et aussi, la plupart d'autres rôles sont aussi celles qui étaient à la création sur ma direction à Londres l'année dernière et pour lesquelles j'avais conçu la partition.
Et l'orchestre ?
Oui, l'orchestre est différent.
C'est important.
Et en plus, le chef, le premier chef qui va diriger ma partition, qui n'est pas moi, c'est le jeune, très doué chef français Alexandre Bloch.
Lessons in Love and Violence. Mm. Comment elle est née entre Martin Krimp et vous ? Quelle en a été l'idée et quel monde vous avez vu émerger à ce moment-là ?
Alors, Written on Skin était conçu pour Aix-en-Provence. Et l'histoire que nous avons prise, c'était une histoire de troubadour de l'ère occitane qui était faite pour la terre d'Aix-en-Provence. Bernard Facoul nous avait même demandé cela. Alors, pour faire un opéra où la création mondiale sera à Covent Garden à Londres, Martin et moi, nous avons décidé de faire une histoire britannique. Et nous nous sommes fait des nouveaux défis. D'abord, l'autonarration qu'on trouve dans à la fois « Into the Little Hill » et « Written on Skin » n'est plus là. Cela veut dire que, à la fois, le théâtre de l'œuvre semble un peu plus naturel que de nos premières opéras et que le tempo dramatique est plus vif et plus tendu, je dirais, que ses précédents. Puis, la texture vocale de l'œuvre est plus dense. Il y a de temps en temps 5 ou 6 chanteurs chantent au même temps, une chose qui n'est pas facile à écrire. Mais au même temps, il y a un côté, je dirais pas surréel, mais pas réalistique de l'œuvre. Par exemple, la mort vient chanter sur scène à la fin de l'œuvre. Le roi pense que c'est son amant Gaveston, mais on ne le dit pas, c'est l'amour. C'est l'amour. Et c'est pas très very realistic. By the rational application of human choice. Our entertainment begins.
Il y a une partie importante qu'on vous entend, George Benjamin, évoquer ça et là, qui est la transmission, la pédagogie. Vous avez cette chaire de composition, la chaire Henry Purcell, je crois.
Oui.
Qu'est-ce que ça vous a fait d'être nommé à cette chaire-là et qu'elle s'appelle ainsi ?
Je me souviens que Messiaen disait toujours qu'il enseignait, il adorait d'enseigner pour une seule raison, qu'il apprenait de ses élèves. Moi, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs extraordinaires professeurs pendant ma vie. Et très jeune, j'ai compris que l'enseignement est une chose qui me convient. J'avais commencé à enseigner la composition quand j'avais 23, 24 ans, très jeune. Maintenant, depuis 2002, je suis le professeur, comme vous l'avez dit, Henry Purcell, professeur de composition à King's College London, où j'ai eu beaucoup d'élèves très doués, même des Français, extraordinaires, phénoménaux, de beaucoup de pays. Je suis fier de mes élèves. Je suis heureux quand je vois qu'ils ont du succès, qu'ils sont édités, que ces œuvres sont mises sur disque, qu'ils ont joué. Mais surtout, j'adore le contact personnel et le fait que de temps en temps, je peux aider quelqu'un. Si quelqu'un est bloqué ou quelqu'un a une très grande imagination, mais pas de technique, je peux les aider. Je peux les donner des idées, je peux soutenir leur effort et je peux éclairer leur conception et qu'ils voient ce qu'ils veulent faire avec plus de clarté. En plus, je donne des classes et j'ai fait ça depuis très longtemps et ça a énormément aidé ma propre évolution comme compositeur. Parce que pour expliquer aux autres des phénomènes musicaux, il faut que la tête du professeur soit très claire et que les conceptions sont vraiment en place. Et je n'ai, comme je le fais avec la composition, je ne fais jamais une chose deux fois. Et de temps en temps, c'est une analyse d'une œuvre particulière. Cette année, je fais 9 ou 10 cours consacrés au discours fracturé de la musique. En commençant par le symphonie avant de Stravinsky, en passant par Messiaen, bien sûr, et Boulez, et Ligeti, Stravinsky, bien sûr, beaucoup d'autres musiques. Et dans des années récentes, j'ai donné une histoire des dynamiques dans l'histoire de la musique occidentale. J'ai donné une grande série de cours consacrés à la symétrie, aux symphonies de Beethoven, à l'écriture polyphonique au XXIe siècle, tant de choses comme cela. Mais c'est enrichissant pour moi aussi que j'aime le contact avec les jeunes créateurs.
Benjamin, vous nous avez dit au début de cet entretien que vos parents, hélas, ne sont plus disparus il y a quelques années maintenant, lorsque vous êtes anobli en 2018. Ils ne sont donc pas là pour le voir, mais vous, Sir George Benjamin, qu'est-ce que ça vous a fait ?
C'est très étrange, c'est un grand honneur. Je suis ému d'avoir reçu ce type d'honneur de mon pays propre. Extrêmement ému et je ne dirais pas fier, mais quand même très, très honoré. Mais finalement, ça ne change pas beaucoup. J'ai toujours la page vide devant moi ou un bâton dans la main et des musiciens devant moi. J'espère que ça ne va pas changer mon caractère ni rien. Je reste, j'espère, pour toujours le même que comme j'étais, j'espère, à l'âge de 16 ans, même de 6 ans. Quelqu'un qui aime la musique et qui veut faire que ça.
Pour se quitter, George Benjamin, vous avez dit il faut provoquer.
C'est... La routine, c'est l'ennemi de l'art. Il faut soit se taire ou trouver quelque chose de neuf et de fraîche. Et puis, il faut dire une certaine vérité et n'ayez pas peur de prendre une route sombre, obscure ou difficile si l'imagination nous prend dans cette direction.
L'ensemble moderne dans Palimpseste 2 du compositeur qui était notre invité cette semaine, George Benjamin, a noté la reprise de son opéra Lessons in Love and Violence à l'Opéra de Lyon dès la semaine prochaine à partir du 14 mai. Réalisation de cette série, Perrine Mingui, prise de son, Thibaut Nassimben, mixage, Cédric Chatelus, attaché de production, Flora Sternadel. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau portrait d'artiste.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.